500. L'an dernier, en 2022, pas moins de 2500 boutiques indépendantes de prêt-à-porter ont fermé leurs points de vente dans notre pays. C'est le pire bilan depuis 1947. Rien qu'en janvier dernier, on a dénombré 850 rideaux PC définitivement. Philippe Moitié, à qui la faute? À Internet?
C'est un facteur aggravant, incontestablement. Le marché de l'habillement est un marché en déclin tendanciel, avec des hauts et des bas. C'est un besoin qui est largement saturé. Et face à ça, on a une profession qui, collectivement, a accru ses capacités de manière un peu excessive. Donc l'offre a gonflé plus vite que la demande. Rajoutez à ça une fuite hors du système, le e-commerce, qui représente aujourd'hui à peu près 20% du marché de l'habillement. Une fuite plus récente, qu'on a plus de mal à mesurer, le marché de la seconde main. Et vous avez donc un état de surcapacité dramatique. Vous mettez par-dessus de ça une crise sanitaire où les magasins sont fermés pendant plusieurs mois, ce qui aggrave la situation financière des magasins.
Et qui modifie les comportements, j'imagine.
Qui change les comportements et altère la santé financière des magasins. Vous rajoutez dernièrement une crise du pouvoir d'achat qui provoque des arbitrages de consommation dont l'habillement est victime. Et vous avez un cocktail explosif de facteurs structurels et de facteurs conjoncturels qui fait que ça tombe comme des mouches, si j'ose dire. Hein. Et c'est sans doute pas terminé. Et pas seulement d'ailleurs dans le secteur de l'habillement.
Mais de ses cendres.
Oui, il y a vraiment des enseignes, mais c'est vraiment celles qui ont pris le virage du e-commerce. Hein. On pourrait citer Kiabi aussi, qui marche très bien. C'est-à-dire que dès qu'on a pris le virage de la vente à distance, on s'en sort beaucoup mieux. Et ceux qui intègrent la seconde main, aujourd'hui, vont s'en sortir encore mieux demain. Donc, il y a vraiment.
Qu'est-ce que vous appelez intégrer la seconde main?
C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a à la fois des marques qui vont faire de la location. On en connaît qui le font dans la chaussure. Et d'autres qui reprennent des vêtements de la marque pour les revendre dans des corners ou carrément dans les enseignes. Donc, c'est ça qu'il faut prendre comme virage. Et le e-commerce et, en effet, la seconde main.
Non, mais ça, je crois qu'on est bien d'accord sur l'analyse. La même chose dans le livre. Hein. Vous avez le livre qui est vendu plusieurs fois, ce qui leur pose un problème à l'auteur, à l'imprimeur, qui ne touche qu'une fois. Donc ça modifie tous les circuits économiques, si vous voulez. Moi, je crois que la seconde main, l'idée qu'on peut porter plus longtemps un vêtement... Alors, il y a des dimensions économiques, il y a des dimensions culturelles. C'est pas évident de faire la différence, en fait, parce que les gens peuvent avoir un discours culturel et tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avoir un manteau d'occasion, c'est chic. Alors, il y a des gens pour qui ils n'avaient pas le choix. Il y a toujours eu des gens qui achetaient de l'occasion. Il y a des gens qui disent, t'as vu, j'ai acheté ce truc, ça a déjà été porté. Hein. Et moi, je crois surtout, si vous voulez, que donc il y a la réutilisation qui devient un élément central. Et puis, depuis la pandémie, on est une société où il y a beaucoup qui s'est numérisé. Bon, le télétravail, la livraison, Amazon, tout ça. Et puis, il y a en même temps une société du proche. C'est-à-dire que les gens, ils ont envie d'une vie de quartier, d'un marché, etc. C'est ça aussi le télétravail.
Les deux en même temps. C'est-à-dire, ils commandent sur Amazon et ils vont dans la petite
boutique. Tout à fait. Vous commandez sur Amazon, mais vous allez chez le fromager. Moi, je vois souvent des fromagers partout, des poissonniers. Donc, c'est ce jeu-là qui se passe, si vous voulez. C'est du proche et ça. Mais c'est exactement comme le télétravail. Je télétravaille peut-être un jour ou deux et je vais aussi dans mon entreprise. Donc, et ce qui souffre, c'est d'une part les grandes surfaces de périphérie. Parce que ce modèle, je prends ma voiture, je fais une heure de bagnole, je vais en course. À mon avis, il est mort. Donc, c'est plus ça qui se passe. Et puis, effectivement, après, il y a des marques comme ça sur le vêtement ou d'autres qui peuvent jouer. Ça, c'est la même chose pour le livre. Hein. Ouais. Parce qu'à un moment, il y a la concurrence entre la livraison qui va plus vite que le libraire, y compris parce qu'ils sont hyper technologiques.
Doucement. Pris de contradiction. D'abord, la société est plurielle. C'est-à-dire que vous allez trouver des gens très engagés qui ont déjà changé leur comportement de consommation. À l'Obsoco, à partir de nos enquêtes, on évalue à peu près 40% de la population française qui est déjà engagée dans une forme plus ou moins radicale de consommation responsable.
De sobriété, certaines sobriétés. De ralentissement.
Alors, c'est pas le minimalisme, hein. on en est loin, mais c'est 40%. Il y a un mouvement qui va dans cette direction. Mais à côté de ça, vous avez encore une fraction de la population qui est complètement dans l'hyperconsommation, qui fait l'équation bonheur égale accumulation de biens. Et quelquefois, ça peut être les mêmes personnes qui, sur certains aspects de leur vie quotidienne, sont très responsables et puis vont se lâcher, par exemple, en faisant du shopping de vêtements pas chers sur un site internet chinois.
En même temps, est-ce que ça traduit une sorte de France à deux vitesses? On appelle ça, je crois, l'effet sablier.
Oui. Expliquez-nous exactement. Tout à fait. À chaque fois qu'il y a un ralentissement économique, il y a une baisse de pouvoir d'achat, on a cet effet sablier, c'est-à-dire que les marques qui s'en sortent, c'est celles qui sont en bas prix et celles qui sont en haut de gamme, en fait. Et évidemment, toutes les gammes moyennes sont celles qui vont être les moins fréquentées. C'est en effet, toutes les fermetures, c'est vraiment dans la moyenne gamme. Et en effet, il y a une partie de la population qui achète pas tant que ça, mais qui va aller vers du fast fashion, du Chine. Enfin, il y a tout un tas de marques où, parce que ce sont des plus jeunes et qui ont ce...
C'est de la mode jetable,
c'est ça? C'est de la mode jetable parce qu'ils sont dans le modèle de consommation qu'on leur a vendu il y a une quarantaine d'années et qui sont toujours dans ce désir de consommer. Ils achètent et ils sont frustrés parce qu'une fois qu'ils ont le bien, ils continuent à avoir envie. Et cela, on ne peut pas le reprocher. C'est les plus jeunes qui ont besoin de s'équiper, alors que le vêtement, finalement, plus on vieillit, moins on en a besoin. Et donc, il y a aussi ce phénomène de vieillissement de la population qui fait que structurellement, ça ne peut pas être autrement, en fait. Hein. On s'habille moins parce qu'on est déjà nos placards qui sont pleins quand on...
L'inflation, depuis un an, a eu un impact mesurable ?
Oui, ça joue. Alors, ça
joue, pas mais pas que. Qui,
parce qu'il y a une partie des gens qui ont fait des économies pendant la pandémie, parce qu'ils n'ont pas pu consommer, ils n'ont pas voyagé, ils n'ont pas allé au restaurant, etc. Alors, c'est la partie supérieure. Hein. Mm-hmm. Et c'est pour ça que c'est compliqué de faire des moyennes. Moi, je ne crois pas que la société se coupe. Alors, évidemment, ceux qui, d'habitude, je dirais, au 15 du mois, ils ne savent plus quoi faire. Ceux-là, c'est au 10, quoi. Mais c'est quand même pas toutes les Français. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Le monde ne s'effondre pas. Mais, effectivement, on ne sait pas très bien faire la différence entre les nouveaux enjeux, les nouvelles cultures, et puis, effectivement, le choix. Et puis une chose aussi, ça dépend des âges. On a insisté sur les personnes âgées. Regardez pour les enfants la question des marques, par exemple. Je pense qu'il y a des parents qui sont prêts à se ruiner, si je peux me permettre, pour que le gamin ait la bonne marque. Parce que pour lui, c'est quasiment identitaire au collège.
Statutaire.
Vous voyez, il y a tout ça qui se joue aussi, sur lequel je pense que pour les enfants, c'est peut-être un peu différent. Mais regardez les jouets à Noël, il y a eu beaucoup de deuxième main. Alors que c'était un produit, je pensais que ça n'allait pas marcher. Les chiffres, ils sont très importants. Donc, vous voyez, tout ça joue.
Donc, vous ne dites pas qu'il y a forcément un appauvrissement de la classe moyenne.
Non, j'ai dit qu'il y a une concurrence entre l'inflation, les nouvelles modes de consommation. Et c'est aussi comme ça que les modes se diffusent. Parce qu'à un moment, il y en a qui vont dire au début, moi, je ne peux pas payer. Puis après, ils vont se rattraper. Finalement, je suis dans le coup. Mais ça dépend des milieux sociaux. Mais il y a une imitation, au fond.
Bien, on a... D'une part, un effet de paupérisation. Ouais. Je corrige un tout petit peu. Dans nos enquêtes qu'on mène régulièrement, on pose des questions sur le ressenti de l'intensité de la contrainte budgétaire et le sentiment de devoir se restreindre sur son alimentation, ce qui n'est pas rien hein, quand même. Mmh. Et ce qu'on voit, c'est qu'aux deux extrémités de la pyramide des revenus, les plus pauvres et les plus riches, ça ne bouge pas tellement depuis la vague inflationniste. Pourquoi ? Parce que les plus pauvres sont déjà au taquet, si j'ose dire, ils sont déjà beaucoup dans la privation et une forte contrainte budgétaire. Et les plus riches, ma foi, même s'ils baissent d'un étage, ça va pour eux, quoi. C'est au milieu que ça se dégrade, et ça se dégrade fortement, et notamment, si on sépare le milieu en classe moyenne inférieure et classe moyenne supérieure, c'est la classe moyenne inférieure qui voit son sentiment de dégradation de la situation financière s'exacerber.
Les et familles monoparentales, par exemple?
Alors, dedans, elles sont carrément dans les plus modestes, les familles monoparentales.
C'est 100 000 familles monoparentales, c'est le cœur de la pauvreté, de toute façon.
Donc, une partie de la clientèle de ça, ce sont ces gens-là, qui n'y arrivent plus, et qui, malgré tout, ont encore de l'appétit pour consommer, et d'ailleurs, l'appétit consommateur, il est plus sur le bas de la pyramide que sur le haut, hein, l'attachement à l'hyperconsommation. Donc là, ils ont l'impression d'être plus riches, en quelque sorte. Hein. Mais en même temps, vous avez trouvé des gens comme vous et moi, d'ailleurs, je pourrais faire un petit sondage autour de la table.
C'est hein, ça, astucieux, qui veulent être astucieux.
Ouais, c'est l'aventure, c'est la chasse au trésor, etc. C'est rigolo, puis on aime tous faire de bonnes affaires. Hein. Et ça témoigne d'une tendance de fond de la consommation qui permet de comprendre pourquoi il y a de la frustration aujourd'hui. C'est ce que j'appelle pompeusement l'universalisation de la norme. C'est-à-dire qu'en gros, on consomme tous un peu de la même manière. Donc les riches n'ont pas de scrupules à aller consommer dans ce genre de magasin. Et quand on est modeste, on veut quand même avoir un jean Levi's, avoir des chaussures Nike, avoir un smartphone dernière génération de la bonne marque à la pomme.
Alors c'est plus compliqué, Pascal Evel, que de dire que d'un côté il y a l'économie premium et l'économie de la débrouille. Alors il n'y a pas forcément cette bipolarisation-là, ou pour vous quand même elle existe ?
Oui, non, il y a vraiment, on observe selon les types de secteurs, en effet, une partie de la population qui veut faire des achats malins. Et donc, on a vraiment cette facilité à aller dans tout maintenant. Et donc, on n'a pas du tout de jugement négatif sur le low cost de la part des catégories les plus aisées. C'est-à-dire que c'est ça qui a bougé au cours du temps. C'était pas vrai avant les années 2000 et aujourd'hui, ça a beaucoup progressé dans ce sens. Il faut juste rappeler une chose aussi, c'est que ceux qui sont le plus touchés par l'inflation en ce moment, c'est pas forcément justement les plus modestes, parce que l'inflation, elle est très dirigée sur deux postes, ça a été l'énergie, maintenant c'est l'alimentation, et donc ça touche tous ceux qui ont une alimentation plus importante. Donc c'est vraiment toutes les familles, c'est les zones rurales, donc des endroits où on consomme pas tant que ça, mais où on est très, très fortement impacté par cette inflation qui atteint 16% en mars. Et on va avoir évidemment les familles monoparentales, puisqu'il y a des enfants, et dans toutes les régions. Hein, c'est vraiment pas dans les grandes villes qu'on est le plus touché par ce phénomène. Et l'aide alimentaire a beaucoup progressé.
Jean-Vierre, on n'avait peut-être pas pris conscience vraiment à ce moment-là de ce que ça révélait en termes peut-être de déclassement, de paupérisation, d'aspiration à un produit qui était considéré comme un produit de luxe.
Le Nutella, évidemment, c'est un objet important pour les enfants. Ça, on sait tout, ça, je veux dire, c'est même incroyable. Après, moi, ce que je trouve obscène, c'est la politique des marques. Enfin, je veux dire, ces campagnes, moins 70%, etc., c'est quasi inacceptable. Enfin, je veux dire, c'est sûr qu'on excite les gens pour courir, etc., je trouve ça inacceptable. Mais après, le problème, c'est la consommation plaisir. C'est la même chose que les magasins pas chers, où on discute avec les gens. Ils disent, oui, moi, j'ai pu acheter un truc inutile, quoi. Au fond, ils ont dépensé 2 euros, pas beaucoup. Mais vous voyez, les consommations, c'est aussi du plaisir, y compris le fait d'acheter un truc, on s'en servira peut-être un jour. Pas un truc cher, un truc à 1 euro. Dans les autres, ils ne peuvent pas le faire. Donc je pense que ça remet du plaisir dans les consommations très modestes. Et ça, c'est important, parce que la consommation, c'est ça aussi, c'est une marque et du plaisir.
Philippe Moadi, vous haussez les sourcils, parce que le Nutella, ça représente quelque chose de fondamental pour les familles,
ça contrairement à ce que dit Jean-Pierre. C'est une illustration de ce que j'évoquais tout à l'heure, quand je disais on aspire tous à consommer à peu près de la même manière. Quoi. Mm-hmm. Donc il existe des clones du Nutella en marque de distributeur moins cher. Mais non, on trouve normal de pouvoir accéder aux produits de premium. Voilà. Alors évidemment, quand on est aisé, on arrive à satisfaire tous ses besoins. Mais quand on a des budgets plus limités, bah, ça ne passe pas. Et on se dit, mais comment ça se fait? Moi, ça ne passe pas, mon voisin, ça passe. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais sur le désarrimage des classes moyennes, c'est un terme évoqué par Jérôme Fourquet et d'autres sociologues qui regardent comment évolue la France, c'est une réalité?
Oui, tout à fait.
Notamment depuis l'inflation qui
C'est vraiment depuis un an, en fait. C'est vraiment le fait qu'on touche une part de la population. Moi, je suis à 70% de la population française qui dit qu'ils n'arrivent pas à manger ce qu'ils veulent, en fait. C'est-à-dire qu'on était à la moitié il y a 2 ans, et là, on a gagné pratiquement 20 points, parce qu'on a ce poids fait que c'est indispensable. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que c'est difficile sur le carburant, l'énergie.
Le loyer.
C'est le premier poste de dépense. Voilà, mais on appuie sur l'électricité, consommer moins. J'ai fait des groupes auprès de gens qui sont en situation difficile sur la mobilité. On voit qu'ils arrivent à se débrouiller autrement. C'est-à-dire qu'ils prennent des vélos, ils vont réduire leurs déplacements. Sur l'alimentation, c'est impossible, en fait. Donc on ne peut pas ne pas manger. Alors déjà,
On a réduit en volume, quand même. Les magasins vendent moins d'alimentation.
Oui, tout à fait. Donc on saute des repas. Et donc c'est déjà ce que faisaient les étudiants. Et donc là, eux, ils continuent à sauter les repas. Et on a, selon les enquêtes, 25% de gens à qui il arrive de sauter des repas dans la journée. Ouais. Donc on a un moment où s'il y avait des promotions de ce type, on aurait encore des émeutes. Mais la loi interdit aujourd'hui de faire autant de promotions.
En même temps, j'en viens à ce changement de consommation globale. Hein, ça ne concerne pas uniquement la nourriture, on l'a vu. C'est un symptôme de déclassement, de sentiment de déclassement, de déclassement tout
court. Le sentiment de déclassement, c'est sûr. Après, on voit bien, par exemple, on a diminué le bœuf, on a augmenté le poulet. Alors ceux qui étaient déjà au poulet, ils sont passés aux pâtes. Et ceux qui étaient aux pâtes, vous voyez, parce que c'est un peu ça qui joue. Après, ceux qui mangent moins de bœuf, ils vont aussi vous dire que le bœuf, de toute façon, il faudra manger moins parce qu'il faut développer des forêts.
Parce que c'est mauvais pour l'environnement, etc.
Donc si vous voulez, c'est toujours pareil. L'effet économique, il s'appuie aussi sur des transformations de société qui sont positives. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais c'est positif pour ceux pour qui c'est à la limite du choix. On paf du bœuf au poulet. Celui qui était au poulet, il est plus coincé. Mais je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est très difficile, je trouve, si vous voulez. Il y a un peu toujours des discours tellement négatifs en France que c'est compliqué de voir la partie qui est une angoisse de manquer et qui est une réalité. Il y a les deux. Mais je pense qu'on augmente souvent la réalité par rapport à l'angoisse.
Certainement une ambition électorale, mais pas que quand même. Il y a une prise de conscience des politiques depuis un certain nombre d'années, dans tous les partis d'ailleurs, des classes moyennes, de leur paupérisation.
Bah, d'abord parce que la classe moyenne, c'est le cœur de la société, que ça a été un peu le modèle aspirationnel. On voulait accéder à la classe moyenne. Ça renvoie à 30 Glorieuses, où il y avait une véritable ascension sociale. Aujourd'hui, c'est un peu bloqué. Je vais vous donner un chiffre qui est quand même assez impressionnant. J'ai un collègue historien, Jean-Claude Demas, qui a calculé qu'en 1975... l'ouvrier devait attendre 35 ans pour atteindre le niveau de vie d'un cadre de son époque. 35 ans, c'est long, mais enfin, c'est quand même à l'échelle d'une vie. Puis surtout, à l'époque, l'ouvrier ne cherchait pas forcément à imiter le cadre. Aujourd'hui, je refais le calcul, on est à 86 ans.
Donc c'est inaccessible.
C'est inaccessible. Et l'ouvrier, aujourd'hui, il a envie de consommer comme le cadre. Oui. Donc la classe moyenne, elle est victime, en quelque sorte, d'un système où on stimule en permanence l'envie de consommer.
Le nerf consumériste.
Exactement, alors que le pouvoir d'achat progresse extrêmement lentement. Donc, pour le dire de manière un peu... trouver la formule, disons, le vouloir d'achat augmente plus vite que le pouvoir d'achat et ça crée de la frustration. Donc, sentiment, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on est déclassé et on est en colère.
Déclassement, derrière ça, parce qu'elle est belle, ça veut dire que nos enfants ne seront pas forcément... vivront pas mieux que nous. Ça, c'est important.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'ascension sociale, elle s'est arrêtée. Mais ils vont avoir en plus... évidemment, les contraintes écologiques. Et donc, il y a vraiment ce qu'on appelle une polarisation. C'est qu'il y a un écart entre les catégories de population qui est de plus en plus fort, à la fois sur les sujets écologiques. Et donc, les jeunes, ils sont très, très anxieux vis-à-vis de ce sujet. Et évidemment, les plus âgés qui se préoccupent beaucoup moins de ce sujet.